Bon vendredi à 10h01, on s'installe ensemble, RCV qui commence pour une dernière fois. Alors, on aura passé un beau 3 semaines ensemble. La programmation de Boulevard 102.1 a été annoncée hier et ça commence dès mardi prochain. Donc, c'est la dernière semaine pour certaines de vos émissions, l'RCV entre autres. Le matin, comme vous l'avez connu dans les dernières semaines avec Jeff Fortin, Max Larouche, Mathias aussi, qui nous quitte officiellement là, pour les prochaines semaines. Sa rentrée scolaire débute à lui aussi à l'université. Et on l'aura avec nous à 10h30. Donc, ce sera son dernier salut à Boulevard 102.1, du moins pour l'instant. Et sinon, bien, c'est sûr, Marceau le midi, dernière aussi aujourd'hui. Marceau qui a accepté officiellement le poste de Morning Man ici à Boulevard 102.1 dès mardi. J'ai l'impression que vous allez être au courant, vous allez vouloir l'écouter, vous allez vouloir entendre c'est quoi cette nouvelle mouture-là de Morning sur les ondes du 102.1. Il est prêt, je pense, honnêtement. Il dira jamais qu'il est stressé parce que je pense qu'il est bien en selle. Mais c'est sûr qu'il va avoir une petite fébrilité. Ça, on est assuré. Yann, qui est déjà rendu, je pense, à se lever plus tôt, puis du moins mardi, parce que lundi, on est en congé, fête du travail, puis on fête le travail en ne travaillant pas. on aura la possibilité de l'entendre après un cadran un peu trop tôt. Salut à tout le monde. Salut au 88-971-1021. Merci d'être bien branché. Alors, comme je disais, pour cette dernière de l'heure CV, on a bien sûr Mathias qui va passer. Également, on va aller faire un tour sur nos réseaux routiers. Il y en a plusieurs qui se posent la question à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est plus difficile dans certains secteurs, est-ce que ça va cesser? Je vous jure, on va en parler. Et puis, bien sûr, dans l'actualité, il y a plein de choses. Là, on va revenir un peu plus tard sur la commission Galland. On va parler également de la SAQ qui va accélérer l'analyse des documents en termes d'enquête de l'UPAC. On veut savoir aussi si il va y avoir une suite à cet incendie de cause indéterminée en Basseville, la police de Québec qui ouvre une enquête là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est assez important, mais incendie survenu en Basseville la nuit dernière. L'origine est encore indéterminée. Ça nous rappelle le genre de moment, là. Je pense qu'il y a 2 ans, il y avait certains individus qui avaient été appréhendés parce qu'ils ouvraient et allumaient des feux en pleine nuit un peu partout, des pyromanes finalement. Puis ça a duré un bon bout. Limoilou, la Basseville, c'était visé. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé sur la rue Boisseau à 1h15, mais vraiment, incendie, 2e alarme dans un milieu résidentiel. Ce qu'on dit, c'est que l'appel initial, c'était pour un feu de poubelle. Et ça nous rappelle ces incendies-là qui étaient allumés il y a 2 ans par les pyromanes qui le faisaient de la même manière. C'était toujours avec feu de poubelle. Ça s'est propagé ensuite au bâtiment. Là, je vous le dis, on ne sait pas si c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que personne n'a été blessé. Au total, 5 personnes, 5 animaux ont dû être relocalisés. On ne pouvait pas réintégrer les logements. Donc, incendie assez important. Par contre, l'aggravation a été jugée non probable et 1 heure plus tard, ben, on a été capable d'entrer avec le commissariat aux incendies pour analyser la scène. On le sait pas trop, mais ça a été transféré au SPVQ. On va se pencher sur la question. Les dommages, heureusement, sont limités, les dommages par le feu. On espère que c'est pas à nouveau une série d'incendies allumés en pleine nuit qui faisaient peur à certaines personnes parce que finalement, c'est des gens qui allumaient ça pour leur plaisir personnel de voir un feu être allumé dans des gros bâtiments. Là, on savait qu'on avait appréhendé des gens, mais on espère que ce n'est pas le retour de cette vague-là incendiaire. Sinon, accident de travail dans du Berger, ça aussi, ça attire notre attention. C'est un homme de 58 ans qui repose dans un état critique, absolument tragique comme histoire, un quinquagénaire. Et en raison d'un accident de travail qui est arrivé ce matin, il y a une autre information qui entre là-dedans. Officiellement, on sait qu'il aurait chuté d'une plateforme élévatrice. Merci pour les informations. On est intervenu à 8h35 à l'extérieur d'un bâtiment commercial. C'était sur la rue Léon Armel, donc parc industriel. Puis on a eu justement un appel, prise d'appel pour la victime qui aurait chuté sur la plateforme élévatrice. C'est un homme grièvement blessé de 58 ans. Il a été transporté dans un centre hospitalier. On craint pour sa vie actuellement. Il y a une enquête, bien sûr, qui a été ouverte. C'est pas mal nos faits divers des dernières heures. En ce qui concerne l'actualité à en politique, entre autres, c'est Bernard Drainville qui a dépassé la commission Galant, malgré le témoignage actuel et en direct de Christian Dubé au fiasco SAQ Click à la commission. Vous le savez, hein, ex-président Conseil du Trésor de 2018 à 2020. Voilà pourquoi il témoigne en ce moment. Bernard Drainville a gagné la palme de l'actualité aujourd'hui, ministre de l'Éducation, avec la réforme du programme de français. Il y a plein d'exemples qui sont sortis. Et la nouvelle liste orthographique obligatoire aux primaires a fait jaser. On a retiré, entre autres, alcool, tabac, amérindien, ambassadeur, esquimaux, canon, messe, métro, poupée, pasteur, prêtre, fantôme, sergent, ski, truie et caporal. Des mots retirés, ça. Tout ce que je viens de vous dire, là, c'est, ça a été choisi comme étant des mots à retirer du lexique que l'on doit apprendre aux primaires. Ceux qui ont été ajoutés, autochtones, québécois, culture, culturelle, créateur, bédéiste, humoriste, baignoire, chameau, poire, bondir, poliment, couragement, maïs, glaçon, canne, verre, date, rangée. Quand on fait ce genre d'exercice-là au ministère de l'Éducation, il faut savoir qu'il faut aller trouver des mots qui sont un peu difficiles à savoir écrire pour la première fois. Bédéiste. Vous comprenez que c'est pas parce qu'on donne toute la place à un bédéiste. On adore ce qu'ils font. On trouve que c'est un travail important en culture, mais c'est la manière dont on l'écrit qui va attirer un peu l'attention pour lequel on va le choisir puis le faire pratiquer aux enfants. Même chose pour maïs, hein? Glaçon, avec le CCD. C'est des exemples pour permettre aux enfants de comprendre un peu plus comment un mot s'écrit, au son puis également à l'orthographe. Mais c'est fascinant parce qu'on peut se poser quand même la question pourquoi alcool, tabac ont été retirés. Amérindien, on se pose un peu moins la question. Esquimaux, par contre, je ne sais pas si c'est dans cette foulée-là d'utiliser les bons termes puis de ne pas froisser personne, mais quand je suis allée au Nunavik, j'ai posé la question, est-ce que ça vous irrite quand on vous appelle esquimaux? Ou, puis la légende vient du fait que esquimaux, dans la définition, ce serait des gens qui mangent d'autres gens. Fait qu'on parle un peu de cannibalisme là-dedans. Mais eux, ils se ramènent à une histoire qui a fait beaucoup couler d'encre et qui, dans leur légende, en fait, c'était, pourquoi on a commencé à appeler ça comme ça, une famille qui a manqué énormément de denrées alimentaires. Et à un moment, puis c'est ce qu'on s'est fait raconter, et à un moment, il y aurait une grand-mère qui se serait sacrifiée pour sa famille en disant « On n'a plus de nourriture, on ne survivra pas. » Puis là, on parle de, il y a des décennies et des décennies. Prenez-moi. Bon, un peu comme ça que je peux le dire sans que ça soit trop morbide et particulier. Puis elle a fait don de ce qu'elle était pour être capable d'alimenter la famille. Tout le monde aurait survécu à ça. Puis bon, on s'est tourné en histoire de cannibalisme, comme quoi ils se mangent entre eux, blablabla. Bla, bla. Mais officiellement, c'est ça leur histoire quand ils la racontent. Puis pour eux, Eskimo, c'est pas péjoratif. Puis là, je vous parle d'une personne très haut placée dans la communauté qui m'avait assuré que c'est pas un mot qui les dérange. C'est plutôt quand on vient qu'à déformer une histoire de leur légende, de leur façon de vivre, de leur raconter, et qu'on mène ça à une automisation à dire qu'ils se mangent entre eux, qui est un peu péjoratif et stéréotypé négativement, que là, ça les dérange. Mais dans la liste de mots, c'est sûr qu'on a peut-être retirer pasteur et prêtre pour des raisons. Truie, par contre, je me l'explique mal en même temps. Pourquoi est-ce qu'on visait truie? C'est particulier à chaque fois l'éducation. C'est vraiment particulier avec la nouvelle orthographe aussi il y a quelques années. Ça fait réagir et c'est le cas de le dire. À chaque fois, ça prend d'assaut tout ce qui est actualité quand on parle de mots. Oui, comme je vous disais en ce moment, fiasco SAQ Click, le témoignage de Christian Dubé est en cours. Témoignage de Sonia Lebel aussi, on peut les entendre. C'est vraiment une couverture complète que l'on fait en direct pour la Commission Galant. On veut toutes les réponses. Je vous rappelle que François Legault, premier ministre du Québec, va témoigner mardi prochain. Et ça, ce sera scruté et analysé. Est-ce que vous y croyez que ça va mener à un dénouement? Si je vous lis depuis le début de la semaine au 88-971-1021 et encore sur Boulevard, le Twitch, là, personne semble très, très en accord avec le fait que cette commission-là va servir à quelque chose. Et c'est notre grande crainte, je pense, collective. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de gens qui sont mobilisés pour organiser le tout. On suit ça avec intérêt, nos journalistes aussi. Pendant cela, on n'est pas dans d'autres choses. On espère que ça va mener à terme quelque chose de bon. Well, C'est gris à l'extérieur, c'est ça. Aujourd'hui, vendredi, une journée un peu cocooning. Si vous avez des commissions à faire, si vous travaillez de la maison ou justement, vous êtes au bureau puis vous vous dites, ben c'est moins grave d'être au bureau aujourd'hui parce qu'il fait pas beau puis on manque rien, ben je vais vous encourager dans ce sentiment-là. 15 degrés, c'est ce qu'on ressent avec de la pluie. Dans le secteur de Le Bourgneuf, on n'en a pas, mais je sais que vous nous avez écrit un peu plus tôt et vous en aviez dans certains un peu plus haut, dans le Nord, Stoneham. Ça tombait très légèrement. En avez-vous? 88-971-1021. Aujourd'hui, ce sont les prévisions. Donc, risque d'orage aussi cet après-midi. On ajoute des nappes de brouillard, maximum à 15 degrés. Les averses vont se changer en brune intermittente ce soir. Risque d'orage aussi pour le début de la soirée. Et on retourne avec des nappes de brouillard tout au long de la nuit. Minimum de 12 pour ce soir et cette nuit. C'est froid et c'est pas mal le minimum pour toutes les nuits prochaines. Demain, samedi, brune intermittente, ça devrait cesser le matin. Ensuite, généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. Ne coupez pas vos activités extérieures demain. Ça va valoir la peine d'aller se promener un peu partout. C'est juste en matinée qu'on a cette brune intermittente-là. Et dimanche, superbe journée, maximum de 24, alternance soleil-nuage. Et on aura du soleil jusqu'à mercredi prochain avec des températures allant jusqu'à 26 pour ce que je vois en termes de météo. Ça, c'est la bonne nouvelle météo. Faut en amener parce que du côté des réseaux routiers, je le vois, c'est plus complexe depuis quelques semaines. Juste à 10 heures, là, depuis 3 semaines, je vois toujours Laurentienne, direction sud, pour entrer sur la capitale, qui est jamais. Dans ces heures-là, c'est très, très rare. On a été de retour aussi avec les complications de la rentrée scolaire. Les gens étaient sur les réseaux routiers. Ça fait en sorte que oui, il faut s'armer de patience. Et on a connu hier matin un fort embouteillage du côté du pont. Il y avait, bon, eu un accident, c'est une chose. Mais il va falloir aller éclaircir tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines parce que ça risque d'être fort complexe avec le pont Pierre-Laporte. Pourquoi? On a des réparations, on a de la construction, on travaille sur les chemins. On va aller jaser à celle qui a toutes les réponses pour nous. Émilie Laure, relationniste et porte-parole, Direction générale des communications au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Ça va être compliqué, on va se le dire. On résume ça. Ça va être un peu l'enfer sur nos réseaux routiers pour les prochaines semaines.
Oui, bien, en fait, la saison des chantiers routiers n'est vraiment pas terminée. On est pleinement là, dans le cœur de cette saison-là, si on veut. On a la rentrée scolaire aussi là, la semaine prochaine. Là, je vous le dis, les deux prochaines semaines, les deux premières de septembre, c'est toujours comme ça. On voit toujours beaucoup de congestion. Les gens finissent par s'habituer un peu à leur routine, puis ils changent un peu peut-être leurs habitudes. Mais il va falloir s'attendre là, à vraiment beaucoup de congestion. On a le pont Pierre-Laporte là, qu'on a annoncé, des fermetures. C'est sûr que c'est des fermetures de nuit pour du rapiessage, mais ça va quand même durer quelques semaines là, au courant du mois de septembre. Alors, on commence par la phase 1. Là, dans la nuit de lundi à mardi, fermeture là, entre 21h et 5h, 2 voies sur 3 en direction sud vers Lévis. On a ça jusqu'au 16 septembre, puis après ça, on tombe dans la phase 2.
Mais là, la phase 1, c'est dès lundi prochain. Donc, fête du travail, majorité des gens vont être en congé, mais dans cette nuit-là, à passer au mardi, soit la journée où tout le monde retourne travailler, c'est là où on va avoir la première phase jusqu'au 16 septembre. Donc, fermeture de 2 voies sur 3 en direction sud, c'est ça?
Exactement, mais c'est de nuit, hein. Faut se dire, là, c'est pas 2 jours, bien évidemment. À 5h le matin, les entraves sont levées pour reprendre à 21h le soir. Donc, phase 1 en direction sud, faut se le dire, là, il va y avoir de la congestion certainement sur la rive nord parce qu'on amorce là, ces travaux-là.
Ensuite, qu'est-ce qu'on doit mentionner aux auditeurs? Parce que, Émilie, je sais, ta job, c'est d'être relationniste et porte-parole au ministère des Transports. C'est pas une job facile. Tu dois en ramasser et pas à peu près de la frustration des automobilistes. Mais je dois poser les vraies questions aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est encore là-dedans en 2025? On dirait qu'on est dans une construction, dans une réparation depuis 3 ans et surtout à l'aube de la rentrée.
Bien, en fait, on est responsable de différentes structures, puis il faut les entretenir. Hein. C'est comme nos maisons, c'est comme nos voitures, c'est comme ce qu'on possède. Il faut absolument le faire parce que c'est une question là, de maintenir nos infrastructures là, en bon état. Et c'est ce qu'on fait. Évidemment, quand on termine une infrastructure, souvent, il faut en recommencer une autre, des travaux sur une autre. Alors, je le sais, là, c'est frustrant pour les automobilistes. Puis, by the way, je suis automobiliste, moi aussi. Hein? Alors, je le vois. Là, puis des fois, c'est ça, on fait des rencontres, puis on essaie de réajuster un peu ou nos messages ou nos entraves. Bien évidemment, le pont La Porte doit être fait. Il est fait pour le mois de septembre. On aura des entraves aussi sur le pont de Québec, mais ce ne sera pas simultané. On essaie de se coordonner. D'ailleurs, j'avais une rencontre à 9h30 là, par rapport à toutes les entraves là, pour la prochaine semaine. de la grande région de Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, c'est vraiment des gens, on s'assoit ensemble et on regarde ce qu'on a à faire de notre côté. Et puis, à ce moment-là, là, la coordination est effectuée justement pour pas qu'il y ait un chantier qui rentre en conflit avec un autre. Mais on le sait, on a des travaux à faire. On a beaucoup de structures au Québec. Faut les entretenir. On a de l'asphaltage. On a drapiétage, on a évidemment de la reconstruction de certains ponts d'étagement à certains endroits qui étaient en fin de vie utile. Alors, c'est vraiment là, la saison des chantiers qui continue de battre son plein.
On a comme l'impression que c'est juste tout le temps le cas, année après année. Peut-être que c'est parce que c'est des nouveaux chantiers puis on s'en rend pas compte, mais on va quand même parler un petit peu plus de celui dans le coin des ponts parce que oui. Ça va créer un fort ralentissement, oui, mais un énorme détour aussi. Il y a certains complexes autour des restaurants, des hôtels et autres qui seront inaccessibles à moins d'un bon détour et ce, peut-être même une heure supplémentaire dans le trafic pour quelques kilomètres. Faut le savoir, ça.
Je vous le dis, là, le mois de septembre, là, le chantier de la tête des ponts, là, on parle là, de l'avenue des Hôtels, la 175, le boulevard Laurier, il y aura des impacts majeurs sur la circulation. On a une fermeture complète du chemin Saint-Louis. On aura des entraves sur Duplessis. Puis il y aura une fermeture majeure là, du boulevard Laurier qui sera annoncée prochainement. Alors vraiment, là, je vous le dis, là, le chantier de la tête des ponts, là, mois de septembre, là, c'est à noter dans votre agenda. Si jamais vous devez transiter par ce secteur-là, de vous trouver des moyens alternatifs, de modifier vos heures, puis de prendre votre mal en patience, parce qu'il y aura vraiment là, beaucoup de congestion routière qui sera causée par nos travaux. Mais écoutez, là, c'est un dernier droit là, avant la période hivernale. On est vraiment là en train de finaliser, là, si on veut, nos travaux, là, pour ce qui avait été amorcé là, le printemps dernier.
Est-ce qu'on peut dire que ce qu'on va vivre finalement, c'est vraiment une histoire de changer nos plans-points? Si on peut faire du télétravail, le faire. Si on peut changer nos habitudes, c'est une chose, mais assurément éviter le secteur. Est-ce que c'est ce que vous conseillez en d'autres mots?
Mais c'est toujours le cas, hein? Transport en commun, covoiturage, télétravail, changer son horaire aussi si c'est possible, changer l'endroit où on passe habituellement, regarder le Québec 5-1 là, tous les jours, regarder le Québec 5-1, puis la ville de Québec aussi, la ville de Lévis ont la même chose. Ils ont une page web là, qui est dédiée à leurs travaux routiers. Alors avec ça, on est capable de voir par où ça serait mieux de passer, mais bien évidemment, là, c'est de planifier ce déplacement. Puis ça, on le dit, on le répète, puis j'ai l'impression des fois, c'est comme pas tout à fait compris. On se dit, on va passer par là, puis si ça fait pas, on y regardera ailleurs. Mais dans le fond, là, avec le Québec 5-1, on a une carte interactive. Mm-hmm. On voit en un clin d'œil, là. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme travaux? Est-ce que c'est fermé? Là où il y a de la congestion aussi, moi, ce que je fais souvent, là, c'est que je regarde le matin, puis le soir, là où il peut y avoir de la congestion, puis des fois, il y a des endroits qui n'en avaient pas avant, puis là, il y en a. Fait que je commence à regarder un peu là, quelles pourraient être les alternatives si jamais je me fais poser des questions par rapport à ça. Mais c'est vraiment chaque personne là, ouais. Qui doit regarder l'endroit où il doit aller et puis trouver les meilleurs moyens pour y accéder.
Ça, c'est sûr, on comprend. Est-ce qu'on peut avoir un genre d'heure, de minutes supplémentaires approximativement que vous avez évalué qui va être à mettre sur l'horaire si on doit passer par là quand même?
Bien, on l'évalue toujours un peu, mais ça dépend toujours d'où on part. C'est ça qui est un peu la difficulté pour moi de vous répondre, là.
Mais approximativement.
Oui, ben moi, écoutez, c'est certain que je vous dis, si vous êtes capable de le faire, si vous n'avez pas de rendez-vous, etc., là, testez-le une fois, puis après ça, vous allez avoir une bonne idée de ce que ça peut vous prendre comme temps. Parce que je peux pas vous dire une demi-heure, puis ça va être 45 minutes. Des fois, ça peut prendre jusqu'à une heure. On l'a vu, il y avait un accident sur le pont hier, Pont-Pierre-Laporte. Ça a coulé à Lévis, je pense, c'était pas terminé encore. Oui. Ça. Fait que, tu sais, c'est difficile pour moi de vous donner un horaire précis, mais il faut vraiment le tester. Il faut tester nos chemins alternatifs, puis le moment de départ et d'arriver là, va pouvoir être modifié là, en conséquence.
On se posait une question avec les auditeurs la semaine dernière, Yannick Marceau et moi, sur l'heure du midi. On se demandait, les commerces qui n'auront plus vraiment de clients ou qui seront désertés vu les constructions, est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir un genre d'enveloppe budgétaire pour les aider, une subvention, quelque chose?
Non, du côté du ministère des Transports et de la mobilité durable, on n'a pas de programme là en ce sens-là. C'est habituellement les villes qui ont ce type de programme-là pour leurs travaux, mais nous, malheureusement, on n'a pas ça.
Est-ce que les commerçants vont pouvoir peut-être se tourner vers la ville dans ce cas-ci, même si c'est le ministère des Transports, aller chercher une compensation? Parce qu'il y en a qui risquaient la faillite selon leur façon de voir les choses puis leurs chiffres et leurs analyses.
Oui, on a dit ça la semaine dernière ou là, deux semaines, là, qu'il y avait effectivement là, certaines difficultés financières, mais du côté du ministère des Transports, on n'a pas ça de programme de financement. Et comme il s'agit de nos travaux, bien, la ville ne compensera probablement pas là, les commerçants. En fait, là, moi, je dirais à ces gens-là là, de regarder du côté de leur contentieux pour voir qu'ils feraient les choses à faire, parce que moi, je n'ai pas de programme là, du côté du ministère des Transports.
Aïe, 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 OK, ça complique un peu les choses. Hein. OK, peut-être à voir avec le temps, si jamais. Bien, c'est sûr que ce genre de chantier-là, on n'a pas ça à tous les jours non plus, qui bloque complètement une voie là, et qui allonge de une heure pour certains avec un détour qui bloque même à des commerces, littéralement. Là. Mais peut-être que ce sera quelque chose collectivement à réfléchir ensemble. Mais je sais que c'est pas sur vos épaules, Émilie Laure, là, mais quand même, c'est quand même une question très, très importante pour ces commerces-là. Peut-être faire un petit tour de ce qui nous reste là, comme entrave importante dans la région de Québec, puis dans la grande région de Québec, en passant peut-être par Lévis?
Oui, bien sûr. Du côté de la Rive-Sud, on a de la réfection de la chaussée qui va être effectuée de soir et de nuit sur la 132. Alors, c'est vraiment là à regarder de ce côté-là. On a de la reconstruction, évidemment, de la chaussée de béton là, du côté de Saint-Nicolas. Et on a le pont du chemin des îles là, à Lévis là, qui est présentement en travaux. Donc, c'est vraiment là, trois chantiers que j'ai sortis un peu, là, mais évidemment, le Québec 51 peut vous donner davantage d'informations parce qu'il y a d'autres chantiers qui sont davantage en périphérie. C'est certain qu'on parle à des gens un peu partout, là. Alors, mais c'est vraiment là, les trois chantiers sur la rive sud que j'ai regardé. Puis du côté de la rive nord, on a parlé là, du secteur de la tête des ponts et du pont Pierre-Laporte. Mais sinon, là, on a quand même l'autoroute Félix Leclerc, là, les reconstructions des ponts d'étagement du côté de Masson-Lormière. C'est vraiment bien amorcé. On a aussi les ponts d'étagement là, sur l'autoroute Laurentienne à la hauteur de la Faune. On avait aussi des travaux d'asphaltage de l'autoroute Laurentienne là, en direction nord et sud là, entre Félix Leclerc et Jean Talon. Ça, on a dû reporter, mais je vous dis, là, les travaux sont supposés commencer le 3 septembre. On a aussi des transports de pièces surdimensionnées, en fait des éoliennes là, qu'on va devoir transporter. C'est habituellement de nuit,
okay.
Le lundi et le jeudi. Mais c'est vraiment à surveiller parce que c'est des transports qui sont par escorte. Puis
quelle
évidemment,
date,
c'est fermé. En fait, c'est plusieurs dates. Okay. Je pense qu'il y a 1500 transports là, sur les quatre prochaines années. C'est habituellement effectué de nuit, mais tu sais, souvent, malheureusement, comme la largeur est excédentaire, bien souvent, on faut absolument fermer certaines voies dans le sens que ça cause la congestion parce que ces véhicules-là transportent de manière trop large et pas assez rapide là, pour pouvoir avoir une circulation fluide. Alors, c'est vraiment à surveiller. Puis finalement, là, bien évidemment, je vous parle de la reconstruction du nouveau pont de l'île d'Orléans là, qui est présentement bien amorcé. Alors, ce seront vraiment là, les chantiers à surveiller là, pour les prochaines semaines, les prochains mois avant la période hivernale là, qui est à nos portes.
Merci beaucoup, Émilie Laure, relationniste et porte-parole de la Direction générale des communications du côté du MTQ.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, bonne journée.
Merci, au revoir.
Vous l'avez entendu, ça va être très complexe et semble-t-il, ça va être un peu la solution dans votre camp qui va être adoptée dans le sens où si vous prenez la voiture normalement, ben, prenez les transports en commun. Si jamais vous avez la possibilité de faire du télétravail, faites-le, regardez le 5-1 par vous-même. J'ai l'impression qu'on vous laisse un peu à vous dans cette situation-là, mais les ponts en septembre, elle l'a martelé, elle l'a dit, ce sera vraiment particulier. Ça va être très, 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 très difficile. Je pense que si elle ne l'a pas dit 10 fois, elle ne l'a pas dit 20 fois. Il faut savoir, si elle ne l'a pas dit 10 fois, elle ne l'a pas dit 1 fois, elle ne l'a pas dit 20 fois, il faut vraiment savoir que les ponts, ça va être très, très complexe. Ça m'inquiète un peu parce que je sais que beaucoup de gens y transigent. C'est déjà complexe avec la rentrée. On a vu la différence. Il y a eu un accident hier. Ça a refoulé jusqu'au chemin des îles. Vous avez été nombreux à nous écrire. Il y a des gens qui disent que ça complique aussi les choses pour les gens qui ont des abonnements à des clubs sur la rive sud. Golf, équitation, etc. C'est vrai qu'il faut voir à ça. Les commerces, les commerçants, les entreprises où il n'y aura pas possibilité d'aller se stationner puis d'y accéder facilement. Un détour d'une heure, je pense pas qu'un client va vouloir y aller quand même. Bon, on apprenait que puisque c'est du côté du ministère, ben, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas d'enveloppe prévue pour vous dédommager. Habituellement, c'est la municipalité, c'est la ville ici et ce n'est pas de son ressort. On va quand même poser des questions au prochain Scrum, du moins j'ai l'impression, au maire marchand, à savoir si on peut les dédommager, parce qu'il y en a qui risquaient la faillite. Ce sont des dossiers qu'on va suivre dans les prochaines semaines. Armez-vous de patience, j'ai l'impression que c'est ça. Puis tout est dans tout, on va parler à l'émission un peu plus tard à Florence Brouillard, qui est directrice chez Brouillard Communication, du télétravail. Il y en a plusieurs fonctionnaires en ce moment, plusieurs gens aussi de banque, plusieurs personnes qui, après la pandémie, tranquillement, pas vite, se sont fait dire « on retourne officiellement dans les lieux de travail ». Puis ça ne fait pas l'unanimité. Puis en ce moment, avec des complexités comme ça, quels sont nos droits? Est-ce que c'est un privilège? Est-ce que finalement, c'est rendu quelque chose d'acquis? On va éclaircir tout ça avec Florence Brouillard dans les prochains instants. Mais avant tout, on revient dans un instant à leur CV. Pourquoi? Pour parler à Mathias, notre collègue slash beaucoup plus stagiaire, parce que c'est comme ça que vous l'avez connu dans les derniers mois, qui fait sa dernière parution dans leur CV. En cette dernière émission, c'est sûr qu'on ne le laissait pas partir. Alors, il sera avec nous pour un bulletin de nouvelles. Soyez là dans quelques instants à Boulevard 102.1. Mathias!
Oui, salut!
Salut, ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien. C'est ta dernière journée parce que toi aussi, tu t'en vas vivre ta grande rentrée scolaire universitaire.
Oui.
C'est ta dernière journée avec nous, mais ta dernière intervention aussi, je pense.
Bien, pour le moment. Là,
avant les remplacements.
C'est ça, avant les remplacements, exactement.
Et merci beaucoup pour la belle saison que tu as fait avec nous.
Ça fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli dans ton émission durant 3 semaines. Ben ça a été un plaisir.
Ça fait plaisir. Puis en plus, ben, tu nous as donné un sapré coup de main pendant que ça brasse. Puis entre les chansons et les pauses, je parle à Marceau, bien sûr, pour l'émission du midi. On ne le voit pas tout ça, hein, le branle-bas de combat. C'est le cas de le dire quand on a deux émissions collées comme ça. Donc, le fait que tu viennes de faire un bulletin, ça nous permettait toujours d'avoir une petite jasette avec toi qu'on appréciait fortement. Justement, je te lance, il y a eu plusieurs faits divers dans les dernières heures, entre autres accidents de travail ici. Val-Bélair, si je ne me trompe pas?
Oui, c'est dans le parc industriel de Duberger que
Duberger,
c'est arrivé. Vers 8h35, c'est malheureusement un homme âgé de 58 ans qui a chuté d'une plateforme élévatrice, donc l'homme qui a été transporté dans un centre hospitalier où l'on craint présentement pour sa vie. Des enquêteurs ont donc été envoyés sur place pour faire l'état de l'accident.
Oui, on craint pour sa vie, comme tu le mentionnais. Il est à l'hôpital. C'est particulier, les accidents de travail. Tomber sur une plateforme élévatrice, est-ce qu'on a compris, en fait? Est-ce qu'il était attaché? Il y a plein de questions en arrière de ça. Enquête, assurément. Même chose pour l'enquête du côté de l'incendie. Là. Il y a un bac de poubelle qui a été mis en feu pendant la nuit. Je sais que tu passais un petit peu outre cette nouvelle-là parce qu'on a d'autres choses à jaser ensemble, mais je veux le dire qu'on est toujours en enquête aussi pour cet incendie dans la basse ville. On ne sait pas encore si c'est un pyromane ou si c'est quelque chose qui a pris en feu tout simplement dans la dite poubelle.
En parlant de faits divers, plus tôt cette semaine, il y a eu un accident sur autoroute 20 à hauteur de Saint-Hyacinthe qui avait causé un mort. On avait arrêté quelqu'un à Laurier Station, on l'avait relâché. Eh bien, ce matin, on a arrêté un homme de 39 ans dans le secteur de l'Outaouais. L'homme est présentement détenu, pourrait faire face à des accusations de délit de fuite mortelle et de délit de fuite causant des lésions. Il doit comparaître par visioconférence ce matin, justement, au palais de justice de Saint-Hyacinthe.
Fort attendu, ça, parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, un peu comme les accidents avec les camionneurs. On va suivre ça.
L'enquête policière sur la SAC qui a présentement lieu, on enquête 4 individus en particulier, justement, pour des cas de corruption. Eh bien, la SAC qui bloquait l'accès à certains documents de l'UPAC, on utilisait la clause avocat-client qui disait qu'on n'avait pas nécessairement droit d'avoir accès à ces documents-là. Eh bien, après que ça a sorti des médias, que François Legault a dit que c'était inacceptable du côté de la SAC, on dit que finalement, on a fait affaire avec une firme conseil pour l'analyse des documents et que des documents seront libérés dès lundi. Comme quoi, ça avance vite, ces dossiers-là, quand ça sort du côté médiatique. Justement, en parlant de la SAC, bien sûr, la commission Galant qui se poursuit aujourd'hui. On a eu le témoignage de Christian Dubé ce matin qui a déjà été président du Conseil du Trésor entre 2018 et 2020. Ça a été très rapide, en gros, le témoignage. Il n'était pas au courant, là, si je peux vous résumer ça rapidement. Du côté de Sonia Lebel, elle est présentement en témoignage. Elle est arrivée en 2020. Elle dit qu'elle n'a pas eu de brefage en règle de ce qui se passait dans les différents dossiers, qu'elle se basait beaucoup sur Éric Ducharme, qui était secrétaire du Conseil du Trésor à cette époque-là, pour faire justement attention. Je vous rappelle Éric Ducharme, qui a témoigné hier à la Commission Galant, ex-PDG de la SAAC. Et je termine avec le projet du troisième lien entre Québec et Lévis qui franchit une nouvelle étape. Est-ce qu'on connaît finalement le trajet? Est-ce qu'on connaît finalement le budget? Non, c'est rien de tout ça. C'est seulement l'évaluation des impacts environnementaux liés à la construction du pont-tunnel qui va avoir lieu. Donc, c'est le ministère des Transports qui a déposé l'avis de projet au ministère de l'Environnement. C'est une étape nécessaire là, d'études environnementales et le BAP à franchir pour justement arriver à une réalisation du projet.
Merci beaucoup, Mathias. Ça a été un plaisir de travailler avec toi.
Egan, plaisir partagé. J'ai perdu. je commence à être fatigué. Mais ça a été un plaisir partagé aussi, Pascal.
Écoute, on te souhaite une super belle rentrée scolaire. Merci pour le plaisir beaucoup. De t'accueillir ici à Boulevard 101 au courant de l'année. Les auditeurs te disent merci et un beau premier pas de l'université. Je pense que t'en vas en économie. Ça
Politique-économie.
Politique-économie. Ouais.
Donc, voilà. Merci aux auditeurs puis au plaisir de vous revoir.
Oui, salut Mathias, merci. On va accueillir maintenant à l'émission celle dont je vous parlais il y a quelques minutes. En fait, elle s'appelle Florence Brouillard. Elle est directrice générale de Brouillard Communication, ainsi propriétaire. J'ai goût de jaser de quelque chose d'important qui fait du pont avec ce qu'on a jasé, un genre de points communs avec la circulation à Québec qui va être hautement difficile pour le mois de septembre, le mois d'octobre. Le télétravail, est-ce que c'est un droit acquis? Est-ce que c'est un privilège? On va jaser tout ça avec elle. Salut Florence Brouillard.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Merci de sortir un peu là, de tes vacances si jamais tu es encore en vacances. Pas encore dans le sens que tu en as pris beaucoup, mais tu essaies d'en prendre. Ça fonctionne jamais. Des gens comme moi qui t'appellent.
J'essaie.
Puis qui veulent parler avec toi. Mais je pense que c'est un sujet qui est important. Puis tantôt, on se jasait sur ce dont on voulait parler ensemble. Puis avec les réseaux routiers ici à Québec, ça va être un point chaud. Le télétravail. Ça a été instauré un peu plus en pandémie. C'était même particulier. Les gens ne voulaient pas nécessairement le vivre. Une fois qu'ils ont commencé à le vivre, certains l'ont adopté, pas tout le monde, mais on commence tranquillement à ramener les gens au bureau. Et ça, depuis la dernière année. Oui, il y a eu des cas dans les dernières années, mais depuis la dernière année, beaucoup de gens de différents secteurs nous disent « Ah, mon employeur veut qu'on revienne un peu plus à question de X jours par semaine ou encore la semaine complète. » Et ça crée des frictions tellement qu'on est en train de se demander « C'est quoi les droits des travailleurs dans ce cas-ci? Est-ce qu'ils ont droit de rester à la maison? Est-ce que c'est un privilège? T'en penses quoi, toi? »
Bien, il y a plusieurs choses là-dedans, en fait. On constate, en fait, qu'il n'y a vraiment pas d'humanité. Techniquement, tu sais, le télétravail est une modalité qu'une entreprise peut intégrer dans ce qu'elle offre à ses employés. Maintenant, puis cette semaine, j'ai fait justement une publication sur les plateformes sociales, sur LinkedIn notamment, qui a fait réagir parce que j'ai donné une entrevue à ce sujet-là la semaine dernière et je nommais de vive voix à la journaliste que chez nous, on a déterminé, quand je dis chez nous, donc dans notre entreprise, on a déterminé à un certain moment qu'il fallait remettre un peu les pendules à l'heure auprès de l'équipe, comme quoi le télétravail avait assurément des bienfaits, mais ce n'était pas un droit fondamental et c'était plutôt un privilège. Ah, et là, quand je dis pas un droit fondamental et pas un privilège, on parle à travers, si on veut, les règles, entre gros guillemets, qu'il y a, qui sont écrites ou non écrites à travers une entreprise et qui relient donc l'employeur à ses employés.
Oui.
Maintenant, il y a quand même des nuances, c'est-à-dire que le télétravail, par exemple, permet notamment à certaines personnes qui ont soit un mode de vie atypique, qui ont soit des troubles quelconques, de pouvoir travailler et avoir accédé à certaines opportunités d'emploi sans quitter leur domicile. Donc, par exemple, les gens qui ont des limitations physiques, parfois on va parler de gens qui ont même des limitations psychologiques, le télétravail a permis de enlever certaines barrières et donc il faut aussi prendre en considération le fait que ces gens-là ont le droit de travailler. Puis justement, cette semaine, quand je nommais le fait que le télétravail pour nous chez Brouillard, ce n'est pas un droit, mais c'est un privilège, mm-hmm. C'est pas dans le sens qu'on brime évidemment les droits de qui que ce soit, bien sûr que non, il reste que c'est une entente qu'il y a entre l'employeur et l'employé. Il faut que ce soit bénéfique pour tout le monde et surtout bénéfique pour l'organisation. Ceci étant dit, il y a comme eu un retour du balancier nécessaire parce que pendant la pandémie, à la force des choses, tout le monde a goûté au télétravail. Puis ça a vraiment du bon au télétravail, puis ça peut s'exprimer des choses dans certains contextes. Ceci étant dit, à un certain moment donné, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû dire à nos équipes, comprenez-nous bien, le travail se passe au bureau. Tout le monde, par exemple, est rendu avec un ordinateur qui peut trimballer facilement jusqu'à la maison. Tout le monde a le droit de travailler de la maison avec des accès spéciaux, mais on veut encadrer cette pratique-là, tout simplement parce que nous, à un certain moment, ça devenait problématique, ça générait de la mésentente, en fait, auprès des clients, puis ça créait des conflits, tout simplement, dans le bureau, fait qu'il fallait le faire, il fallait mieux l'encadrer, puis c'est un peu ce que je soulignais dans ce sens-là. Mais là, c'est intéressant, par exemple, parce que toi, tu me parles de trafic. Tu vois, c'est quelque chose auquel, moi, je n'avais jamais vraiment pensé. Simplement parce qu'on est aussi à Québec, dans une ville où il faut dire, oui, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Puis c'est sûr que ça change la dynamique sur les routes. On est dans la semaine de la rentrée scolaire, on le voit, il y a plus d'achalandage, mais en même temps, on ne peut pas on peut pas demander aux gens de faire du télétravail simplement en raison de l'embouteillage.
Oui. Mais en fait, c'est pas accessible à tout le monde selon les métiers. Ça, c'est une chose qu'on perdra même pas du temps là-dedans parce qu'on est tous au courant. T'sais, tout dépendant de ce que tu fais dans la vie, ça se peut que tu sois pas dans la possibilité d'en faire. Mais là, on vient de se faire dire du côté du ministère des Transports que ça va être septembre et octobre extrêmement complexe de circuler aux abords des ponts, entre autres direction sud. Ça va vraiment être inefficace. On parle de détours des fois de plus d'une heure, mais en étant pris dans le trafic à ce moment-là. Et on réfléchissait à la gang, là, au 88-971-1021, en se disant, OK, mais le temps que tu passes dans la circulation, c'est peut-être une façon qui va influencer les meetings que tu as préparés avec les heures auxquelles tu t'en vas à tes meetings, ton énergie aussi une fois que tu arrives au travail, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette facette-là, des fois, à explorer? Parce que oui, Québec n'a jamais été connu comme étant la ville la plus importante en termes d'embouteillage, mais de plus en plus, c'est le cas, puis il ne faut pas se leurrer. Il faut peut-être avoir cette proportion-là à réflexion en se disant, ben oui, il va falloir peut-être avoir un peu de télétravail ou de souplesse au niveau employeur si on veut même que les employés aient une belle qualité de vie et soient prêts à travailler. Tu sais, ça va aussi avec la santé mentale. Là. Être pris dans le trafic pendant trois heures là, avant d'arriver au travail, t'es stressé.
Oui, oui.
Ça se peut que tu prennes ton sel au volant, etc.
Effectivement, mais ça, tu nommes qu'il y a une situation qui c'est très intéressant, puis tu vois. Mais tu sais, moi, je parle à travers mon propre spectre. Oui. Nous, dans notre entreprise, ça fait quelques années qu'on a des horaires d'arrivée puis de départ flexibles, justement, selon les gens avec nous, selon leur réalité. Maintenant, à partir du moment où, par exemple, on nomme la Rive-Sud de Québec, comme tu faisais, qu'il y a effectivement des embouteillages monstres au courant des prochains mois, je souhaite que la majorité des employeurs soient flexibles auprès de ces employés-là, parce que ça crée juste une dynamique de frustration. C'est du temps perdu, puis tu sais, selon les métiers, ben du temps, c'est de l'argent aussi. Donc, il faut le prendre en considération, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, plus c'est une petite organisation, plus c'est facile de le prendre en considération, puis d'être flexible, de faire du cas par cas. Pour une grande organisation, c'est un peu plus compliqué, cependant.
Est-ce que tu as l'impression que le rapport employé-employeur, des fois, est fragilisé par le télétravail, d'expérience que tu as et que tu entends d'entreprises avec lesquelles tu travailles, etc., en se disant « Ah, mais ça donne tellement le gros bout du bâton aux employés que ça rend un peu inquiet l'employeur sur l'évaluation de la performance d'un employé?
» Je pense que c'était le cas au début, quand on a commencé à en faire de façon générale. Parce qu'effectivement, il n'y avait plus vraiment... le contrôle était moindre. Maintenant, à mon avis, une entreprise dont la culture est forte et dont les employés adhèrent profondément à la culture, force est d'admettre qu'il n'y a pas vraiment de bris de confiance avec le télétravail. Mais ça, encore une fois, ça dépend de chaque organisation. Puis c'est une belle façon de mettre au défi les organisations. Moi, j'ai l'impression que les employeurs, si effectivement... diabolise un peu le télétravail, le voit comme un ennemi, c'est-à-dire ça ne permet pas d'avoir du contrôle sur, par exemple, la performance ou autre, mais le problème est beaucoup plus profond que le télétravail, en fait. C'est, le problème est dans la culture et dans les valeurs et peut-être dans le choix des employés également et peut-être aussi dans le choix du dirigeant de l'entreprise qui sent qu'il a besoin d'avoir une main mise et un grand contrôle sur l'horaire de ses employés. C'est pas du tout dans l'air du temps, il n'y a pas de doute. Chose certaine, c'est sûr que ça peut challenger la confiance. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là, moi, ça nous est arrivé que ça a été en raison du télétravail et de la façon dont c'était géré qu'on perdait la confiance envers un employé. Mais c'est un très bon indicateur. Donc, d'une certaine façon, il faut juste apprendre à naviguer à travers cette nouvelle réalité-là qui est présente. T'sais. On ne peut pas se leurrer, comme tu disais plus tôt, ça fait partie de la réalité. Puis il y a vraiment des bienfaits au télétravail. Il y a vraiment des bienfaits parce qu'on peut parler du fait que oui, l'employé va peut-être plier sa brassée de lavage entre deux meetings. C'est, à mon avis, absolument pas grave. Mais l'employé va aussi être peut-être plus concentré, plus apte à faire du travail dans des conditions plus adéquates. Parce que moi, je le réalise, puis dans notre équipe, on le réalise tout le temps. Les tâches qui demandent plus de concentration, qui sont plus complexes, sont plus faciles à réaliser en télétravail quand t'es pas dérangé continuellement par téléphone qui sonne, par des collègues, par les gens qui se présentent au bureau. Donc, il y a assurément des bienfaits, pas juste pour la performance, pour la santé mentale aussi, pour l'équilibre de vie. L'idée, c'est vraiment de trouver la bonne recette pour chaque organisation. Mais ce que moi, je rappelle toujours, c'est que c'est l'organisation qui doit trouver la recette pour l'organisation et ce n'est pas les employés qui doivent dicter comment ça doit se passer. Je pense que c'est ça peut-être la nuance.
Mais ça va être intéressant de le suivre pour la suite des choses aussi parce qu'il y a plusieurs fonctionnaires qui se sont fait rappeler pour revenir au travail en présentiel, du moins plus souvent qu'autrement. On le voit aussi avec des institutions bancaires qui ont fait ça avec leurs employés. On le voit aussi dans des entreprises un peu de style bureau partagé où on demande à revenir pour la créativité de la gang. Mais il y a un appel au retour social aussi dans le milieu professionnel. Florence, ça conclut notre entrevue, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis c'est sûr qu'on se reparle dans les prochaines semaines, Florence Brouillard.
Absolument. À très bientôt.
Salut. Elle est directrice de Brouillard Communication, aussi propriétaire de l'entreprise. Elle connaît un peu cette réalité-là, autant pour les entrepreneurs que pour les employeurs, que pour les employés, parce qu'elle navigue et patauge quotidiennement là-dedans. Puis c'est un peu un enjeu qu'on avait oublié et qui va revenir assurément dans l'actualité, parce que vous êtes déjà plusieurs à nous écrire là, au 88-971-1021 que vous vous êtes fait ramener au travail où on vous en parle. Puis le trafic vous inquiète. Là, on a jasé de ça. Il y a des gens qui nous envoient des statistiques comme quoi la position de la ville de Québec dans le monde, c'est la 325e en congestion. Pour la région de Montréal, c'est 316. On n'est pas si loin que ça de Montréal. Et on est clairement dans le top là, au niveau mondial. Si Québec est 325e, c'est très, très, très haut. Quelqu'un qui dit au gouvernement du Québec, il n'y a aucune souplesse pour le télétravail. C'est 2 jours de présence obligatoire. Exemple, tu es en congé lundi, mardi. Il faut quand même que tu fasses tes 2 jours en présentiel, même si tu étais absent 2 jours sur 5. Assurément, tu as 2 jours, tu vas être au bureau. Il y a des endroits où c'est des journées fixes et d'autres, c'est discrétionnaire au gestionnaire. Je ne sais pas comment vont vos contrats, comment c'est évalué, vous, dans votre business. Est-ce que vous aimeriez, même pour certains, retourner au travail, mais vous n'avez pas la possibilité? C'est un autre axe, en fait, qui est souvent abordé, mais peu discuté dans le public comme ça. Quelqu'un qui dit le télétravail, c'est moins de déplacements, coûts, temps, etc., mais ça enlève les gens dans les centres-villes, donc moins d'argent pour les parkings, les restos, l'économie, les cafés, les restos, tout ça, effectivement. Il y a quelque chose d'intéressant aussi qui a été jasé du fait qu'il y a des gens qui se sentent seuls et aimaient énormément cette position-là qu'offrait le télétravail, d'être dans leur bulle, puis de travailler de façon tranquille, mais qui maintenant ont vu un genre de solitude dans leur vie être beaucoup, beaucoup plus grande qu'ils pensaient. Ça fait en sorte qu'ils n'ont plus nécessairement de contact avec leurs collègues, ne vont plus aux parties de bureau. Ils s'isolent. Les amis, ben si c'était les collègues, ils n'en ont plus vraiment. Et pour eux, c'est la famille et encore leur social. Et même un genre d'étouffement quant aux endroits dans la maison qui sont dédiés au travail et que ta tête n'en sort pas nécessairement parce que tu es toujours à 3-4 pas de ton bureau de travail. C'est vraiment intéressant de vous lire aujourd'hui. C'est sûr qu'on va en jaser au nombre de textos qu'on reçoit, entre autres Mylène qui écrit « J'ai un nouvel emploi depuis juin en hybride après 5 ans télétravail à temps plein. Ma conclusion, parce qu'elle a été 5 ans en télétravail, là, hybride depuis juin. » Sa conclusion, même si j'ai voulu être à la maison, c'est que l'intégration se fait tellement mieux sur place, un plus grand sentiment d'appartenance aussi qui se crée. Hybride idéal à mon avis. Au gouvernement, j'étais traitée comme en garderie. À mon emploi actuel, j'ai la liberté de choisir mes journées et ça me rend beaucoup plus performante parce que quand je suis concentrée, je suis concentrée. C'est très bon ça. Retour de cette semaine à 3 jours obligatoires en présentiel pour Jérémy. C'est bien pour la cohésion et le social, mais les bureaux à air ouverte, c'est peu productif. Jérémy, nous, c'est ça ici, mais je trouve ça très complexe. Je suis même allée me chercher des écouteurs coupe-son là, pour m'aider là-dedans, même si j'adore mes collègues. Quelqu'un qui dit « Ma voisine d'en haut travaille pour le gouvernement et en télétravail, je confirme qu'elle n'a pas l'air de travailler fort. Ça marche souvent avec des chiens, le ménage, les commissions. » Et ça, parler, il y aura toujours de l'hommerie là où il y a de l'homme. Hein. Puis, parler aux entreprises du genre esthétique, coiffeur, etc. Dans les magasins, on voit la différence aussi depuis quelques années. Le nombre de personnes qui soudainement peuvent prendre des rendez-vous à l'extérieur de l'heure du lunch a énormément augmenté. Puis là, on ne parle pas juste de petits coyotes puants là, qui veulent pas travailler nécessairement, mais ça a changé beaucoup la dynamique économique puis les horaires de tous et chacun. Hey, merci. Continuez d'écrire autant sur Twitch que du côté du 88-971-1021. On revient à Boulevard 102.1.
Moi, Lou. It's time!
Leur CV avec Pascal CV.
La pluie est commencée à Le Bourgneuf, alors je le vois directement dans la fenêtre. Les tendances qu'on affichait sur Environnement Canada aujourd'hui, ben ils sont clairement remplis là, leurs averses qui ont débuté un peu partout depuis les dernières minutes sur la grande région de Québec. Risque d'orage aussi pour cet après-midi. On en a un autre aussi en fin de journée avant la nuit. Le maximum est à 15 aujourd'hui. On l'a atteint déjà, minimum à 12. Et demain, samedi, de la bruine intermittente. Généralement nuageux avec 60 % de possibilités d'averses ensuite pour la journée. Mais on attend quelques éclaircies quand même avec 19 degrés. À partir de dimanche, ce sera magnifique. Et c'est ce qui conclut l'air CV. Donc, sous cette météo assez improbable, parce que ben, demain, c'est un peu de tout qu'on va avoir, ben, je vous souhaite une excellente fin de semaine de 3 jours. Profitez-en. Je sais pas si vous êtes parti d'avance, vous êtes sur les réseaux routiers en ce moment, mais sachez qu'on vous accompagne dans Marceau Midi dans les prochains instants. Pour la dernière, après 2 ans, ben, on se tape dans la main puis on se relève dans une nouvelle programmation mardi matin. Merci d'avoir été là dans les 3 dernières semaines. Ça a été un super beau terrain de jeu. J'ai eu du plaisir avec vous, autant sur Twitch que par courriel que sur le 88-971-1021. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver dans cette heure-là. Lundi prochain, congé, fête du travail. Mardi, c'est Marceau le matin avec Max Larouche et Jean-François Fortin. Puis ensuite, ben, Max aura son 2 heures pour le point de Max. On se retrouve là, on va avoir un petit segment en fin d'émission ensemble, Maxime et moi. Et ensuite, ce sera Jeff Fortin et moi pour On en jase. Et bien sûr, votre super trio habituel dans le Gravel, dans le retour. Restez là, on a une émission où on s'est gardé plein de trous, Yannick et moi, un peu moins de collaborateurs aujourd'hui pour se jaser. Ça a été un plaisir de vous accompagner. La fin d'une époque, mais des fois, on fait avec cette fin d'époque-là pour une autre aussi qu'on va peut-être très fortement apprécier. Restez là, Boulevard reste pareil avec son essence. Là, je voyais des commentaires hier, mais vos artisans, ce sont les mêmes. Vous allez triper, je suis certaine de ça. Faites-nous confiance. On est là avec vous, puis on est là certainement pour vous. C'est le principal. À tout de suite dans Marceau le midi. Boulevard.